Que le nom du Seigneur soit béni. Sa présence est un réel réconfort à nos cœurs. Il est bon de vivre près de lui. Près de lui est la paix, le repos, le pardon, la félicité éternelle. N'est-ce pas vrai? Nous pourrions rester des heures et des heures dans sa présence. Il est merveilleux. Avant de monter au ciel, le Seigneur a dit à ses disciples, « Je vous donne ma paix. » Non pas comme le monde donne la paix, mais comme moi je la donne, a dit Jésus. Une paix qui surpasse toute intelligence. Une paix qui ne dépend pas des circonstances de ce monde. Une paix qui ne dépend pas de nos sentiments, mais la paix même de Dieu qui est en nous. À cause de la présence de Jésus en nous, que nous avons accepté, que son nom soit béni. Et lorsque Jésus vient habiter dans un cœur par le Saint-Esprit, il y a de grandes choses qui se passent. Il y a une transformation qui s'opère. C'est véritablement une vie nouvelle qui commence lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Sauveur. Le Saint-Esprit vient faire sa demeure en nous. Et de grandes choses commencent à se passer lorsque l'Esprit de Dieu vient habiter dans nos cœurs. Et j'aimerais qu'on voit ensemble ce matin ce que la puissance du Saint-Esprit produit dans une vie. Quels sont les fruits de la puissance de Dieu dans notre vie? Et pour cela, nous allons voir un peu comment les choses se sont passées avec les premiers chrétiens. En voyant les chrétiens d'aujourd'hui, bien des gens sont déçus, n'est-ce pas vrai? Mais il nous faut aller à la source et voir comment les choses étaient au début. Et nous verrons des choses merveilleuses. Il nous faut boire à la source. C'est à la source que l'eau est pure, n'est-ce pas vrai? Et la Bible est la parole de Dieu. Et nous allons aller à cette source pure pour voir comment les choses se passaient dans les Actes des apôtres. Nous allons voir le discours de l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte. Et ensuite, nous allons voir un aperçu de la vie des premiers chrétiens. Il est important de voir ce qui s'est passé dans la vie des premiers chrétiens pour réaliser que ce qui s'est passé en eux, c'est ce que Dieu veut, que les choses se passent en nous aussi, n'est-ce pas vrai? Alors nous allons lire dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 36. Nous allons avoir là un aperçu un peu détaillé de la vie des premiers chrétiens. Ce qui s'était passé en eux, c'est important de savoir. Car la parole de Dieu ne nous laisse pas au hasard dans ce domaine-là. Actes des Apôtres, chapitre 2, à partir du verset 36. Voici ce que Pierre dit à la multitude qui était rassemblée ce jour-là. Voici ce qu'il dit, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Vous l'avez rejeté, disait-il Pierre, mais Jésus, il était accepté par Dieu le Père. Ce n'est pas n'importe qui ce Jésus, c'est le Seigneur et le Christ. C'est celui que Dieu a oint. Il n'y en a pas d'autre. Il est celui que Dieu a oint. Que toute la maison d'Israël, donc, le sache avec certitude. Alléluia. Et ensuite, au verset 37, après avoir entendu ce discours, donc de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous ? » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin et en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et le baptême dont il est question ici, c'est le baptême par immersion, donc le baptême des adultes. On les plongeait complètement dans l'eau et ensuite on les ressortait. C'était l'image de la mort et de la résurrection de Jésus. Et en même temps, c'était l'image de la mort du chrétien à son ancienne vie. Et quand on les sortait de l'eau, c'était l'image d'une vie nouvelle que le chrétien devait vivre et voulait vivre, n'est-ce pas vrai? Alors ils furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient. Donc tous ces disciples maintenant, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Amen. Ce passage est extraordinaire. C'est un des rares passages un peu que nous trouvons dans les Écritures où nous voyons un peu la vie des premiers chrétiens. Comment les choses se sont passées quand ils ont reçu le Seigneur dans leur vie. Et ce qu'ils ont expérimenté, nous pouvons et nous devons aussi l'expérimenter. Donc, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, que s'est-il passé? Et j'aimerais vous donner maintenant cette chose importante que la puissance de Dieu a produit dans leur vie. Jésus lui-même avait dit à ses disciples, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » Donc, cette puissance du Saint-Esprit a produit plusieurs choses dans leur vie. Je vais vous en donner 7 pour bien réaliser ce que la puissance de Dieu produit dans nos vies. En considérant ce qui s'est passé dans leur vie, nous réaliserons que le Saint-Esprit veut faire la même chose aussi dans notre vie. Première chose que le Saint-Esprit a faite, quand il est descendu sur les disciples, c'était de convaincre les disciples, ou les premières personnes, les convaincre de péché. Voilà, j'allais dire, le premier ministère du Saint-Esprit, ce que la puissance du Saint-Esprit a produit, une conviction de péché. Et ceci est important parce que regardez ce qu'il est dit ici, au verset 37, acte 2, 37. Il est dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Voyez-vous ? Ce n'était pas seulement quelque chose d'intellectuel, un acquiescement mental d'une vérité, de l'Évangile. Ces hommes, ces premiers chrétiens, en contact avec la puissance de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous ne pouvons pas rester les mêmes, ils ne peuvent pas rester les mêmes. Et nous aussi, lorsque nous sommes en contact avec la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, il y aura toujours cette conviction de péché qui viendra sur nous. Et ils eurent le cœur vivement touché. Voyez-vous, c'est quelque chose de profond qui s'est passé en eux. C'est comme si Dieu leur montrait leur fausse route. C'est Dieu leur montre qu'ils ont fait fausse route jusqu'aujourd'hui. Qu'ils s'étaient opposés à Jésus-Christ. Il y en a qui acceptent Dieu, mais qui refusent Jésus-Christ. C'était le problème des Juifs, là. Et c'était là le péché. C'était là quelque chose de très grave. Et quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ils ont été convaincus, premièrement, que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu. Qu'il n'était pas n'importe qui. Et ils étaient convaincus de ce péché. Parce qu'il s'est dit, j'étais dit, quelques jours avant, ce Jésus-là, on ne sait pas qui c'est. Nous croyons, nous, en Dieu, mais Jésus, on ne sait pas qui c'est. C'est un prophète, c'est tout. C'est ce que les hommes pensaient de Jésus. Mais Dieu lui-même ne pensait pas ainsi. Ils l'ont crucifié. Et ils ont dit, bon, maintenant, c'est terminé. On n'entendra plus parler de Jésus, c'est fini, ils l'ont crucifié, ils l'ont mis au tombeau, c'est terminé maintenant. Mais voilà que les choses n'ont pas fini ainsi. À la croix, les hommes ont dit leurs mots, ils ont dit maintenant, c'est terminé pour Jésus. Mais Dieu, lui, n'avait pas dit son dernier mot. Et Dieu a dit, vous l'avez crucifié. Et vous pensez qu'il est un malfaiteur. Qu'il est un blasphémateur, qu'il est quelqu'un en qui nous ne pouvons pas croire, qu'il n'est pas le Fils de Dieu. Eh bien, moi, je vais vous prouver qu'il est le Fils de Dieu. Et Dieu a prouvé que Jésus était le Seigneur, le Oint, le Fils de Dieu, en le ressuscitant d'entre les morts. Alléluia! Et il est apparu aux disciples, il est apparu à Pierre, à Jacques, à Jean, à tous les disciples. Ils étaient étonnés, ils étaient surpris. Ils ont dit, mais comment ça se fait? Ils l'ont crucifié et Jésus est là maintenant. On ne peut pas se débarrasser de Jésus comme cela. Ceux qui veulent se débarrasser de Jésus maintenant, ils peuvent s'en débarrasser. Mais ils le rencontreront le jour du jugement. Car il est Dieu. Et ceux qui n'ont pas voulu se courber devant lui maintenant et l'accepter comme leur sauveur, un jour après la mort, ils se courberont devant Jésus. Comme leur juge. Mais à ce moment-là, ce sera trop tard. Car Dieu a établi Jésus-Christ comme le juge des vivants et des morts. Et c'est par lui que le pardon des péchés est annoncé. C'est ce que Jésus avait dit à ses disciples et à Pierre. Et la première des convictions de péché, c'était celle-ci. Ils eurent le cœur vivement touché. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Mais on a touché loin de Dieu. On a rejeté le Fils de Dieu. Quel péché! Et c'est le péché le plus grave, de rejeter le Fils de Dieu. Nous ne pouvons pas dire, j'accepte Dieu et je refuse son Fils. Cela n'existe pas. La Bible dit que si nous refusons le Fils, nous refusons le Père aussi. Que si nous acceptons le Fils, nous acceptons le Père aussi. Celui qui rejette le Père, rejette le Fils aussi. Nous ne pouvons pas les séparer. Amen. Ils eurent le cœur vivement touché. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on a fait? On l'a crucifié. Le Sauveur, loin de Dieu, le Messie d'Israël et le Sauveur du monde, nous l'avons crucifié. Et il y a eu en eux quelque chose de profond qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait? Une profonde repentance s'est emparée d'eux. Car le péché, mes amis, c'est faire ce qu'on veut au lieu de vivre pour Jésus-Christ. Jésus-Christ est le modèle que Dieu nous a donné pour que nous puissions le suivre. Et si nous ne suivons pas ce modèle, si nous ne marchons pas d'après ce modèle, nous sommes pécheurs. Voyez-vous, quand le Saint-Esprit est venu sur eux, ce Saint-Esprit leur a donné de réaliser qu'ils avaient fait fausse route quant à Jésus-Christ. Et les premiers effets de la puissance de Dieu dans notre vie, c'est de nous convaincre de péché. Amen. Le péché de rejeter Jésus-Christ, mais aussi le péché en général. Quand quelqu'un est sous l'onction du Saint-Esprit, ce quelqu'un-là ne joue plus avec le péché. Ce quelqu'un ne joue plus avec le péché. Le péché est quelque chose désormais qu'on rejette et qu'on hait de tout notre cœur. Amen. Amen. Ça, c'est la preuve évidente que l'onction de Dieu est sur nous, que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre dans nos cœurs. Lorsque nous lui permettons de nous convaincre de péché, quand les choses ne vont pas bien, mes amis, bien souvent, quand nous entendons l'Évangile, Dieu nous parle, Dieu nous corrige, Dieu nous reprend. Nous nous sentons visés, n'est-ce pas vrai? Combien de fois, quand j'ai entendu l'Évangile moi-même, je me sentais visé par le prédicateur. Je pensais qu'il savait tout sur moi, alors qu'il ne savait rien du tout. Mais pourquoi est-ce qu'il disait des paroles qui me touchaient? C'est parce que Dieu connaissait les besoins de mon cœur. Et Dieu utilisait ce serviteur de Dieu pour parler à mon cœur. Et que c'était le ministère du Saint-Esprit de me rendre mal à l'aise. Vous savez, avant que Dieu donne la paix, il doit venir nous troubler. Beaucoup de gens veulent la paix sans être troublés d'abord. L'homme est dans une fausse paix, n'est-ce pas vrai? L'homme a une fausse paix aujourd'hui. Tout va très bien, tout va très bien. Une fausse paix dans sa religion, une fausse paix dans le monde. Et on veut se convaincre que ça y est, c'est comme ça. Mais lorsque nous sommes en contact avec la parole de Dieu et avec la puissance du Saint-Esprit, on est mal à l'aise. Mais vous pouvez bénir le Seigneur pour ce sentiment, ce malaise-là. C'est une bénédiction. Ne dites pas, c'est le prédicateur qui m'en veut. Dites, c'est le Seigneur qui m'aime. Il m'aime tellement qu'il me parle personnellement. Bien souvent, tu as dit, Seigneur, parle-moi. Oh, je voudrais que une fois tu me parles directement. Mais voilà, il te parle. Il te parle directement. Tu es concerné. C'est le Saint-Esprit qui doit mettre le trouble là où il y a la paix en toi. Et quand tu acceptes cela, alors, quand tu réalises que tu as une fausse paix, que tu as fait fausse route devant Dieu, le Saint-Esprit te dit, bon, maintenant, tu peux te tourner vers Jésus-Christ et lui, il enlèvera ce trouble, il enlèvera ce malaise. Si tu veux soumettre ta vie à sa personne glorieuse et majestueuse. Amen. Mais mes amis, c'est une bénédiction. Quand le Saint-Esprit nous parle, j'allais dire, c'est très grave quand nous ne sommes plus repris par le Saint-Esprit. C'est très grave. C'est que nos cœurs se sont endurcis. Si à l'écoute de la parole de Dieu, il n'y a plus rien qui nous touche, c'est très grave. Cela montre que le Saint-Esprit ne peut plus agir au milieu de nous. Ils eurent le cœur vivement touché. Oh, mes amis, pour permettre au Saint-Esprit, à la puissance de Dieu d'agir toujours plus en nous, soyons sensibles à sa voix. N'ayons pas la mauvaise réaction de « non, 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 de toute façon, non, non, c'est pas vrai ». On sait que c'est vrai. Non, d'accord, je ne vais pas. Non. Ah, on peut, très bien. On peut s'endurcir, mais c'est vrai. Mais mes amis, plus on s'endurcit à la voix de Dieu, plus nous aurons de la peine à entendre la voix de Dieu une autre fois. Amen. C'est pourquoi il nous faut bien rester sensibles à sa voix. Dieu nous aime. C'est une bénédiction quand Dieu nous dit « voilà ce qui ne va pas ». Mais Dieu n'en reste pas là, bien sûr. Il nous dit « voilà ce qui ne va pas ». Mais maintenant, viens au pied de la croix, confesse ton péché, et le sang de Jésus te purifiera. Alléluia! D'où le premier ministère. La première action du Saint-Esprit, ils furent convaincus de péché. Deuxièmement, la puissance du Saint-Esprit produit autre chose. Une conversion à Dieu. Il y a une conversion qui s'opère lorsque nous sommes sous l'action du Saint-Esprit. Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Alors voyez-vous, le mot repentance ici, c'est veut dire changer complètement de direction. Et ils acceptèrent ce message. Ils furent baptisés, ils se repentirent. Donc, voyez-vous, non seulement le Saint-Esprit sur nous nous montre ce qui ne va pas, mais ensuite, il nous détourne Il nous aide à nous détourner de ce péché pour nous convertir à Jésus-Christ. Et nous voyons là quelque chose de pressant et de puissant. C'est que quand nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit, nos vies ne peuvent pas rester les mêmes. Amen. Il y a une conversion qui s'opère, un changement total. Voilà ce que cela produit le jour de la Pentecôte. Après cela, ils n'étaient plus les mêmes personnes. Amen. Combien de gens vont à l'église et qui sont toujours les mêmes? Avez-vous remarqué cela? Toujours les mêmes. On peut aller toute sa vie à l'église sans être converti. Quand il y a une conversion, il y a un changement radical dans la vie de la personne. Quand le Saint-Esprit est sur quelqu'un, le Saint-Esprit ne laisse pas la personne comme cela, dans sa solitude. Il lui dit, mon enfant, maintenant, tu as fait fausse route. Détourne-toi de ta mauvaise voie. Viens et suis-moi. Alléluia. Il y a un désir de changer de vie. Ça, c'est un des fruits du Saint-Esprit sur nous. Ce que nous aimions avant, nous ne l'aimons plus maintenant. Et ce qu'on aimait avant, nous ne l'aimons plus maintenant. Tout a changé. Alléluia. C'est une profonde conversion, un changement radical. Alléluia. Veux-tu changer? Si tu veux changer, Dieu te changera. Amen. La puissance du Saint-Esprit produit la conviction de péché. La puissance du Saint-Esprit, deuxièmement, produit, amène à une conversion. Troisièmement maintenant, la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'elle produit dans la vie de ces premiers chrétiens? Une confession publique de Jésus-Christ. Voilà un autre témoignage de la puissance de Dieu. Acte 2, 41, « Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. » La puissance du Saint-Esprit a produit quelque chose d'extraordinaire, une confession publique de sa foi. Et on les baptisait, tout le monde a vu. C'était une cérémonie visible, publique. Tout le monde le voyait. Voyez-vous, le Saint-Esprit produit en nous cette confession, ce désir de confesser publiquement le nom de Jésus. Alléluia. Celui qui, la Bible dit, et Jésus l'a dit lui-même, si quelqu'un a honte de moi sur cette terre, si quelqu'un a honte de confesser mon nom sur cette terre devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père et devant les anges. Mais si nous n'avons pas honte de lui, si nous le confessons devant les hommes, alors Dieu confessera aussi notre nom devant le Père et devant les anges. Amen. Troisième effet de la puissance de Dieu. Une confession publique de Jésus-Christ. Nous n'avons plus honte de Jésus. C'est pourquoi Paul disait, « Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alléluia. Je n'ai point honte de l'Évangile. » Mes amis, comment avoir honte de celui qui a donné sa vie pour nous? De celui qui a été crucifié à notre place? De celui qui a porté notre souillure, notre honte et notre condamnation. C'est lui qui aurait pu avoir honte de nous, n'est-ce pas vrai? Mais il n'a pas eu honte de nous. Nous étions haïssables. Nous étions des ennemis de Dieu. Il aurait pu nous rejeter. Mais il n'a pas eu honte de toi, de moi. Il t'a aimé quand même. Amen. Mon ami, si nous voulons vivre une vie chrétienne victorieuse, nous devons réaliser que le Saint-Esprit sur nous produit cette confession publique. Les premiers chrétiens, non seulement ils ont confessé publiquement le nom de Jésus, mais ils ont été jetés dans les arènes, mangés par les lions. D'autres ont été immolés, brûlés, crucifiés. Combien ont souffert? Ils n'avaient point honte du Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire était sur eux. Alléluia. Mes amis, plus nous confessons publiquement le nom de Jésus, plus son esprit sera sur vous. Pas créé. Vous en ferez vous-même l'expérience. Si vous êtes prêt à être rejeté à cause de Jésus devant les hommes, l'esprit de Dieu sera sur vous. La gloire de Dieu te soutiendra.
Alléluia.
Mais n'aie jamais honte de Jésus-Christ devant les hommes. Pierre un jour a, devant une petite gamine, une petite jeune fille, Pierre a renié son Seigneur, n'est-ce pas vrai? Une servante était là. Quelques heures avant la crucifixion, une servante s'est approchée de Pierre avec tous les autres qui étaient là. « Toi, je te reconnais. » Alors qu'on a emmené Jésus pour être crucifié, la servante était là. On se moquait tous. Ce n'était pas la mode de suivre Jésus à ce moment-là. Quelqu'un s'est moqué de lui. Et Pierre a dit, moi, la servante a dit, « Moi, je te connais, toi. Je t'ai vu avec Jésus de Nazareth. D'ailleurs, ton accent, je reconnais ton accent aussi. Il avait un accent spécial. Je te reconnais. Tu es aussi de ce nombre-là. Tu fais partie de Jésus et des autres. » Et Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? « Je ne le connais pas. » Quel mensonge. Devant une petite gamine, il a renié son maître. La servante est revenue. « Je te connais. Je sais qui tu es. De qui me parles-tu? Je ne connais pas cet homme. » Et c'est là que quelque chose de profond s'est passé en Pierre. Il s'est rappelé les paroles du Seigneur qui lui avait dit qu'il allait le renier. Et quand il s'est rappelé les paroles du Seigneur, il pleura amèrement, n'est-ce pas vrai? Il est sorti dehors, il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai renié mon maître. Et il s'est repenti sincèrement. Dieu est prêt à pardonner lorsqu'on se repent. Amen. Dieu est prêt toujours à nous pardonner lorsque nous avons fait une faute. Pierre a renié le Seigneur. Il a demandé pardon, Dieu lui a pardonné. Mais après, à la Pentecôte, le Saint-Esprit est venu sur lui. Et vous savez ce qui se passe maintenant? Lui qui a renié le Seigneur, c'est maintenant lui qui dit aux autres, vous avez renié le Saint et le Juste. C'est lui qui maintenant dit aux autres, devant la foule, vous avez renié le Saint et le Juste. Comment Pierre? C'est toi qui l'as renié. C'est fini maintenant. Ça, c'était le vieux Pierre, c'était fini. Il avait été pardonné.
Merci Seigneur.
Le Saint-Esprit était sur lui maintenant. Dieu avait tout effacé.
Alléluia.
Et Pierre se tenait devant la foule avec la conscience d'être complètement pardonné de son péché. Rempli du Saint-Esprit, désormais, il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Alléluia.
Amen.
Mes amis, quand Dieu pardonne, il pardonne véritablement. Amen. Il ne dit pas « je te pardonne » et puis il faudra qu'on règle ça plus tard encore. Comme les hommes qui disent « moi je te pardonne, mais tu sais, jamais je pourrai oublier ce que tu m'as fait. » Voilà le pardon des hommes. « Je te pardonne, mais dès que je pourrai t'avoir, je t'aurai. » Qu'est-ce que c'est que ce pardon? Ce n'est pas ça le pardon divin, ça c'est le pardon des hommes. « Je te pardonne, c'est du bout des lèvres, mais je t'aurai quand même. Je t'aurai. » Mais quand Dieu pardonne, il oublie totalement. Amen. Il oublie. C'est fini. Dieu nous considère comme si nous n'avions jamais péché. Quelle assurance Pierre avait-il devant la foule? Le Saint-Esprit sur nous nous pousse à confesser publiquement le nom de Jésus. Cela ne veut pas dire que tout le monde va nous accepter. On se moquera de nous. Certains accepteront, mais d'autres refuseront. Mais ce n'est pas pour cela qu'il faut se taire. Il faut accepter d'être rejeté avec le Seigneur. Et le Seigneur lui-même a dit, ce qu'on a fait au maître, on le fera aussi au disciple. Le disciple ne sera pas plus que son maître. Et tout disciple accompli sera comme son maître. Ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Qu'est-ce qui s'est passé avec ces premiers chrétiens? Quelle confession publique de leur foi! On ne pouvait plus les faire taire. Ils n'avaient plus honte du Seigneur. Alléluia. Un quatrième effet de la puissance de Dieu dans leur vie, c'était ils étaient persévérants avec le Seigneur. Non seulement ils confessaient publiquement Jésus-Christ,
mais il persévérait. Acte 2, 42, il est dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Alors là, ce verbe est extraordinaire. Il persévérait. Cela veut dire qu'ils ont mis la main à la charrue et à partir de ce moment-là, ils ont décidé de ne plus jamais abandonner le Seigneur. Amen. Que ce soit dans la bénédiction, que ce soit dans la persécution, ils étaient prêts à aller jusqu'au bout. Voilà ce que le Saint-Esprit produit dans une vie, la persévérance. Amen. Si tu décides de persévérer, le Saint-Esprit viendra à ton aide et à ton secours. Et tu seras étonné, toi une faible femme, toi un faible homme, incapable de faire quoi que ce soit, si tu es décidé à aller jusqu'au bout, le Saint-Esprit te tiendra, te soutiendra. Alléluia. Et tu pourras faire des choses extraordinaires avec ton Dieu. Car avec Dieu, les faibles deviennent forts. Les forts deviennent faibles, les agneaux deviennent des lions, et les lions deviennent des agneaux. Alléluia. Amen. La persévérance. Voilà la qualité des premiers chrétiens. Non pas, Seigneur, je persévère tant que tu exauces mes prières, tant que tu me bénis, tant que tu fais tout ce que je te demande, alors je te suivrai, Seigneur. Les premiers chrétiens, nous voici désormais pour faire ta volonté. Que ce soit pour vivre ou pour mourir, nous sommes à toi pour le temps et pour l'éternité. Amen. Amen. Sur celui-là, l'Esprit de Dieu demeurera. Le Seigneur te soutiendra continuellement. Et si tu as fait une fausse route, demande pardon. Le Seigneur est plein de grâce. Il te pardonnera encore. Il te relèvera, il te purifiera. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit opère cette persévérance. Amen. Voilà comment étaient les premiers chrétiens. Quel exemple merveilleux. Cinquièmement, la puissance du Saint-Esprit opère autre chose. Opère une consécration totale à Dieu. Voilà un autre effet de la présence du Saint-Esprit sur eux. Une consécration à Dieu. Acte 2, 45. Il est dit, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, ils en partageaient le produit entre tous et selon les besoins de chacun. Cela ne veut pas dire qu'ils vivaient tous ensemble, ce n'était pas du tout ça. Puisqu'ils se rassemblaient encore dans les maisons pour prendre la Sainte-Seine. Mais cela veut dire que tous ceux qui avaient des biens en trop, eh bien ils le mettaient au service des pauvres qu'il y avait au milieu d'eux. Et que même leur porte-monnaie était touchée. Quand quelqu'un est touché dans son porte-monnaie, vous pouvez dire que ça va en profondeur. Quand quelqu'un n'est pas touché dans son porte-monnaie, Seigneur, je te donne mon cœur, mais le porte-monnaie, tu touches pas. Ça, c'est affaire privée, ça. Mon argent, ça, c'est à moi. Je te donne mon cœur, mais l'argent, ça, c'est... Mes amis, les premiers chrétiens, vous le voyez, c'est extraordinaire. Tout en commun, quand ils voyaient un pauvre, là, ils étaient là. C'était une consécration totale, non seulement de leur être, mais de leur bien aussi. Amen. Est-ce que ton argent est converti? Est-ce que ton porte-monnaie a été baptisé aussi? Est-ce que ton porte-monnaie est aussi passé par les eaux du baptême? Ça va aussi passer par la mort. C'est ce que le Saint-Esprit produit. Amen. Le Saint-Esprit te dit, allez. Donne-toi entièrement. Et si tu te donnes entièrement, je me donnerai entièrement à toi. Alléluia. Les Lévites dans l'Ancien Testament étaient ceux qui étaient entièrement à l'Éternel, n'est-ce pas? Mais laissez-moi dire une chose. L'héritage de ces Lévites, c'était qui? C'était l'Éternel lui-même. Je serai ton héritage. Ça, c'est le plus grand des héritages. La plus grande des bénédictions. Si nous nous donnons entièrement, Dieu lui-même se donne à toi et à nous. Quelle bénédiction! Vous ne ferez jamais faillite avec Dieu comme partenaire, je vous assure, jamais. 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 Amen. Alléluia. Si tu donnes tout, le Seigneur se donne totalement aussi à toi. Gloire au Seigneur, il est merveilleux. Et quand on donne tout, quand on se donne totalement, sans réserve, sixième effet de la puissance de Dieu dans une vie, c'est une joie continuelle en Christ. Acte 2, 46. Qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Ils étaient tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec tristesse. Avec tristesse, puisqu'ils avaient tout vendu. C'était avec tristesse et le cœur rempli de soucis. Qu'est-ce que vous avez, c'est ça que vous avez dans vos Bibles? Mais certains chrétiens allaient voir, on a l'impression qu'ils ont cette version de la Bible. Et ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Quand on a tout donné au Seigneur, quand on lui appartient, alléluia, quelle joie. Savoir qu'il prend soin de nous, qu'il ne nous abandonnera jamais. Amen. On peut faire des faux pas, mais lui ne nous abandonnera jamais. Si nous nous repentons, il nous pardonnera, il reviendra, il nous aidera. Alléluia. Nous pouvons l'attester. Après plus de 30 ans de conversion au service de Dieu, nous avons dépendu que de Dieu seul. Alléluia. Et Dieu a toujours été fidèle. Toujours. Nous pouvons le dire. Quelle joie! Alléluia! Quelle joie! C'est ce témoignage-là qui touche. Et ce qui devrait nous distinguer des autres, ce qui devrait distinguer les chrétiens des autres, c'est leur joie! Alléluia! Pourquoi? La joie dit qui vient de ce que désormais notre vie est entièrement livrée entre ses mains et que nous avons comme partenaire, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Alléluia! Quel partenaire extraordinaire! Rempli de joie! Si on te disait à partir de ce matin, maintenant c'est Dieu qui sera ton partenaire. Mais vous bondiriez au plafond! C'est pas possible! Si Dieu est mon partenaire, alors tout ira bien. Ça ne veut pas dire que tout sera facile. Parce que beaucoup de gens sont contre Dieu. Mais cela veut dire que tu ne manqueras jamais de rien. Dieu sera avec toi. Et au sein de la tourmente, des épreuves, des contradictions, cette joie intérieure sera en toi. Amen. Amen. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances, ni des sentiments, ni des hommes, mais cette joie dépend de la présence de Dieu en toi et de ta consécration totale au Seigneur. Amen. Dans la joie, ils prenaient leur nourriture avec joie. Alléluia. Merci Seigneur. Et je termine septièmement, une septième bénédiction. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur et ensuite louant Dieu. Alléluia. La septième bénédiction de la présence du Saint-Esprit en nous, c'est un cœur qui loue Dieu continuellement. Amen. Alléluia. Voilà, un cœur qui loue Dieu parce que Dieu est merveilleux. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Nous pouvons être déçus des hommes, mais jamais du Seigneur. Si tu as été déçu dans la vie, remarque une chose, tu as été déçu des hommes, mais du Seigneur, jamais. Il est le seul en qui nous pouvons vraiment mettre toute notre confiance. Mets ta confiance en lui. Et Jésus lui-même a dit, quiconque met sa confiance en moi ne sera jamais déçu ni confus. Tu es dans la confusion, tu es déçu parce que tu as mis ta confiance dans les hommes. Et la Bible dit, malheur à l'homme qui se confie dans l'homme, mais bienheureux est l'homme qui se confie dans l'Éternel. Alléluia! Mets ta confiance en Dieu, loue Dieu! Dieu est merveilleux, le Seigneur est merveilleux, il n'y a point d'iniquité en lui, il n'y a point d'injustice en lui, il est parfait dans toutes ses voies, il t'aime, il prendra soin de toi, il changera ta vie. Tu vois tes faiblesses, tu vois tes passions, tu vois tes erreurs. Mais viens à Jésus, celui qui a dit à Pierre, je ferai de toi un pécheur d'homme, fera de toi un nouvel homme ou une nouvelle femme. Pierre a été transformé par la grâce de Dieu. Il te transformera aussi si tu veux tout simplement lui donner ta vie. Mais il faut que tu la lui donnes, sinon il ne peut rien faire. Dieu ne force personne. Tu dois dire, me voici Seigneur, déçu des hommes, déçu de moi-même. Je me confie en toi et en toi seul. Il louait Dieu. Il le bénissait. Oh, nous pouvons vraiment le louer. Plus nous sommes remplis du Saint-Esprit, plus nous louons le Seigneur, plus nous louons notre Dieu. Alléluia. Amen. S'il y a quelqu'un qui est digne d'être loué sur cette terre, c'est le Seigneur. Il est mort pour tes péchés et il est ressuscité des morts. Il est vivant. Il opère des miracles, il fait des choses extraordinaires. Et même quand les choses ne vont pas comme nous le pensons, il est le Dieu fidèle. Il se tient près de toi dans la tourmente. Jamais il ne t'abandonnera. Tes amis t'abandonneront, mais lui, jamais. Beaucoup d'amis m'ont abandonné lorsque je me suis converti. Mais s'ils m'ont abandonné, ce n'étaient en fait pas des véritables amis. Alors il a bien mieux valu qu'ils m'abandonnent. S'ils t'abandonnent, c'est qu'ils n'étaient pas des vrais amis. Alors il vaut mieux qu'ils t'abandonnent tout de suite. Ah, je dis, ah, bah, vous m'abandonnez maintenant que je donne mon cœur au Seigneur. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Le Seigneur, c'est l'être le plus extraordinaire. Comment? Pourquoi tu m'abandonnes? Ah, tu voulais que je te suive toi? Et le Seigneur, je le mette derrière. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette amitié? C'est le Seigneur qui me permettra d'être un véritable ami. Sans le Seigneur, nous ne pouvons pas être un ami véritable. Amen. Sans le Seigneur, les hommes sont traîtres, méchants, trompeurs. Mais quand Jésus vient dans un cœur, d'un infidèle, il en fait un fidèle. D'un impur, il en fait un être pur. D'un rebelle, il en fait un être soumis. D'un cœur plein de haine, il en fait un cœur plein d'amour. D'un cœur plein de mensonges, il en fait un cœur plein de vérité. Il louait Dieu. Voilà un peu le portrait des premiers chrétiens. Amen. Ah, tu dis, oh là là, les chrétiens d'aujourd'hui et les chrétiens d'avant, ce n'est pas du tout les mêmes. Eh oui, bien sûr. Tu es déçu peut-être des chrétiens d'aujourd'hui, mais va à la source. Va boire à la source. Alléluia. Cette source est pure. C'est à la source qu'il faut aller boire. C'est à Jésus qu'il faut aller. C'est à la source qu'il faut aller. Et tu ne seras jamais déçu. Voilà ce que produit la puissance du Saint-Esprit, ce qu'a produit la puissance du Saint-Esprit dans la vie des premiers apôtres et chrétiens. Et voilà ce qu'elle produira en nous. Amen. Oui. Mes amis, livrons-lui tout notre être. Et après, comme il est dit dans le passage, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. » Le Seigneur dit, « Mais avec de tels chrétiens, c'est pas possible, je suis obligé de leur envoyer du monde. » Avec une telle consécration, un tel amour, un tel changement de vie. Mais vite, vite, allez là-bas, vous serez bien accueillis, vous serez bien aimés. Ah, vous n'entendrez pas toujours les choses que vous voulez, mais vous entendrez les choses dont vous avez besoin. Amen. Et si vous n'entendrez pas toujours les choses que vous voulez, mais vous entendrez toujours les choses dont vous avez besoin. Et ce besoin vient de la parole de Dieu. Amen. C'est cela. Moi, je préfère entendre les paroles dont j'ai besoin, qui me font mal peut-être, mais dont j'ai besoin d'entendre, que de quelqu'un qui me dise « Tout va bien, tout va bien, tout va bien, continue, continue. » Alors que je suis dans le péché, alors que je fais des choses mal, alors que je déshonore Dieu dans ma vie, et qu'on me dise « Tout va très bien. » C'est me tromper. Celui qui aime quelqu'un lui dit la vérité. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre, dit Jésus. Celui qui lit la Bible et qui la met en pratique sera toujours un homme libre. Personne ne peut être esclave en obéissant à la parole de Dieu et en donnant sa vie à Jésus-Christ. Personne ne peut être esclave. La liberté, la vraie liberté et la délivrance de tout esclavage vient de la Bible et du Seigneur Jésus. Amen. Le chrétien ou la nation qui met sa confiance dans le Seigneur et dans la Bible sera un chrétien ou une nation libre. Personne ne peut les rendre esclaves, jamais. Celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Jésus transforme véritablement. Il rend heureux. Et il te dit maintenant, va. Sois un témoin. N'aie pas honte. Et l'Esprit de Dieu sera avec toi. Et sur toi. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et laissons au Saint-Esprit la possibilité d'opérer tous ces changements en nous. Comme il l'a fait dans la vie des premiers chrétiens. Amen. Et que le Seigneur soit glorifié. Et le Seigneur nous enverra des âmes. Et notre vie sera utile. Et nous pourrons nous présenter devant lui, non pas les mains vides, mais avec un bouquet de fleurs qui représenteront les âmes que nous avons sauvées par sa grâce. Dieu veut que tu lui présentes un bouquet. Il ne veut pas que tu viennes tous les mains vides. Il veut te donner des âmes. Il veut te donner un bouquet d'âmes qui ont été sauvées par ton moyen pour que tu lui présentes ce bouquet. Tu te jettes cela à ses pieds et tu lui dis à toi la gloire. Tu m'as permis de faire ceci par ta grâce et par ton esprit. À toi la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen.